Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de 2012 Extinction. Nous arrivons petit à petit à la fin. Nous nous approchons du dénouement final. Et ce soir, nous avons encore notre équipe d'experts, d'agents d'Icarus, prêts à en découdre contre la menace alien. Bonsoir, chers agents Icarus.
Bonsoir.
Hello.
Eh bien, allô?
Hello.
Alors, on va refaire une petite présentation de nos chers agents. Nous allons commencer par par la fin cette fois-ci avec Block. Vas-y, Block, dis-nous tout.
Block est un agent russe, fier gaillard, musclé, athlétique. Avec un certain problème avec l'autorité. Donc, c'est pour ça qu'il a été muté à Icarus. Donc, depuis ce temps-là, il s'est fait ses marques avec l'équipe. Et c'est un bon vivant qui aime jouer du shotgun.
Excellent. Ensuite, nous avons le terrible Striker.
Oui, Striker, issu d'une riche famille de Jordanie. Il finit par être placé dans une école militaire parce que ses parents sont pas capables d'en venir à bout. Il sort de là avec les meilleures notes et finit par être engagé dans les services secrets jordaniens. Et finalement, il quitte son pays d'origine pour échapper au contrôle de ses parents et il rejoint à ce moment-là Icarus. Voilà.
Parfait. Ensuite, nous donnons la parole à Crash.
Oui, alors Crash, qui est une Mexicaine, que je décrirais en quelques mots en disant que c'est une pilote à haut risque, disons. Elle ramasse n'importe quoi qui peut se piloter dans les airs, sur la route. Elle n'a pas encore essayé un sous-marin, par exemple, mais bon, je suis sûre que ça s'en vient. Je suis sûre, croisons les doigts. Mais c'est ça. La tendance à. Ben, pas ces temps-ci, mais là, y a pas grand-chose qui crash. Ou quand ça crash, tout va bien. Mais sinon, c'est la pilote. La pilote et la risqueuse
La
du groupe.
casse-cou du groupe.
Oui, la casse-coupe. Merci, mon Dieu. J'en perdais mon espagnol.
Je t'en prie, mon enfant. Et enfin, nous avons Colonel.
Eh bien. Colonel est un Américain mi-trentaine. C'est un diplômé de West Point, des plus grandes écoles d'officiers aux États-Unis. Il vient d'une tradition militaire dans sa famille. C'est une fierté pour lui. Malheureusement, il est chez Icarus pour une raison qu'il déplore profondément. Il a désobéi à des ordres directs afin de sauver ses hommes et c'est ce qui lui a valu d'être chassé de l'armée américaine. Maintenant, il est chez Icarus et il sent vraiment qu'il est à l'endroit où il doit être pour obéir à son sens du devoir et de l'honneur. Voilà.
Excellent. C'est marrant,
Ouais.
il y a une espèce de petite. J'ai l'impression d'une constante parmi les agents d'Icarus, c'est qu'ils ont tous des problèmes ou eu des problèmes avec l'autorité, avec des supérieurs, avec des trucs. Et c'est tous un peu des têtes brûlées qui ont foi un peu à leur tête et qui ont trouvé chez Icarus une famille qui était capable de les comprendre et de leur permettre d'utiliser au mieux leurs compétences.
Je vois pas de quoi tu parles.
Je voudrais juste rajouter qu'à cette heure, Colonel, il sauve plus ses hommes, il est dessus.
Oh! Oh! Damn! Damn!
Alors ça, c'était un coup en dessous de la
Oh!
ceinture. Il paraît
Oh!
que c'est interdit par les règles.
Ouais, tout à fait. Mais une chose comme ça, c'est juste que... Non, t'es effectivement une casualty of war, là, tu sais, c'est très déplorable, mais à ce moment-là, le colonel ne savait pas que tu étais présentement dans la zone de feu. Et voilà. Et on se demandera toujours, Mais bordel, qu'est-ce que tu faisais là?
On n'aura jamais la réponse.
On a ça, non.
Bon, parfait, parfait, parfait. Alors, moi j'ai un petit réglage à faire. J'ai encore mon micro qui fait des siennes. C'est fou ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc on va entamer le cinquième scénario de la campagne, qui est le, bah, qui est en fait le dernier scénario. On va certainement le faire en deux sessions.
Excusez-moi.
Et donc, bah, je vous souhaite bonne chance pour cette fin apocalyptique.
Ben, je te souhaite bonne chance à toi, maître de jeu, pour cette fin apocalyptique.
Oui, oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer.
Lui, il va
survivre. Je ne me fais pas de soucis. Donc, aux dernières nouvelles, précédemment, dans 2012 Extinction, vous étiez intervenu pour récupérer la bombe psychique. Enfin, une bombe psychique. Parce que vous avez compris que pour pouvoir éliminer le faucheur, il fallait ce genre d'appareil et il fallait réussir à placer la bombe psychique, à l'envoyer à l'endroit où se trouve le faucheur, que grâce au Time Wave Zero, chose que les envahisseurs n'ont pas, vous êtes en mesure de bientôt le localiser et donc de pouvoir faire une frappe chirurgicale, contrairement au type de frappe que font les envahisseurs, c'est-à-dire que eux, ils disloquent la planète. Voilà, c'est eux, ils y vont. Vous envisagez d'y aller au scalpel. Eux, généralement, ils vont à la hache et à la scie.
Eux, ils flushent le bébé avec l'eau du bain.
Exactement. Donc, vous aviez fait une mission pour récupérer justement une bombe psychique, et quelle ne fut pas votre surprise de réaliser que une bombe psychique, c'est un membre plutôt âgé de l'espèce extraterrestre des envahisseurs qui, depuis sa naissance, a été formé pour justement se sacrifier pour tuer un faucheur. Et lorsque vous l'avez rejoint, après qu'il se soit un petit peu amusé à vous faire des hallucinations, des illusions un petit peu pour vous tester, il a accepté de vous accompagner et vous êtes rentré, vous êtes de retour à la NSA. Alors hop, toc, on active. Où vos collègues d'Icarus vous ont rejoint pour une espèce de briefing sur la suite des opérations. Donc nous avons bien entendu le général Liam Collins, nous avons le lieutenant-colonel Lee Carfai, et nous avons votre meilleur ami, le major Raphaël Santos. Vous êtes dans une salle de réunion. On va dire qu'il y a aussi... vous lui avez jamais donné de nom à lui, hein?
Lui, non.
Je sais plus. Je sais plus.
Non.
C'est la chose.
La chose.
The thing.
Et...
Attends, je trouve un nom.
N'oublions pas qu'il y avait aussi Feuille Rouge, un officier alien que vous avez, auquel vous avez réussi à démontrer que vous pouviez éliminer le faucheur sans avoir à détruire la planète, et vous avez réussi à le convaincre que c'était possible, et donc il a décidé de vous aider. Chose qui, quelque part, démontre bien que les envahisseurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est détruire les faucheurs. et que ben, la destruction des civilisations sur les planètes où se trouvent les faucheurs est un dommage collatéral, mais ils n'ont pas, c'est pas leur intention de base de détruire ces civilisations. Simplement, comme ils s'estiment au-dessus de toutes ces civilisations qu'ils rencontrent, ils n'arrivent pas à considérer un autre moyen que ce soit eux qui interviennent à leur manière. Et là, en démontrant à Feuille Rouge que ben, vous étiez capable de faire différemment et de réussir, en tout cas qu'il y avait une chance, eh bien vous avez réussi à le convaincre.
Malheureusement, il n'y a pas le niveau pour nous aider adéquatement.
Ben, c'est-à-dire qu'il vous a donné pas mal d'informations.
Ouais.
Il vous a permis d'identifier où se trouvait la bombe psychique. Il vous avait donné les codes d'accès. Il vous avait donné pas mal d'informations sur l'invasion, sur les procédures d'invasion, justement. Parce qu'il a aussi collaboré avec le général Collins pour améliorer la défense. Et lors de cette réunion, le général Collins vous expose la situation des défenses terriennes. Alors, il est plutôt optimiste. C'est-à-dire que, selon lui, les forces aliens finiront par être repoussées si la planète n'est pas disloquée, en fait. Donc, si votre mission, c'est-à-dire si on identifie l'endroit où se trouve le faucheur et si on arrive à percer la croûte terrestre une trajectoire rectiligne en direction du centre de la planète et qu'on arrive à lui envoyer une bombe psychique qui explosera et qui le tuera de manière chirurgicale. Si tout ça est réalisé, alors selon lui, les défenses planétaires, elles, tiendront le choc face à l'invasion alien.
Ouais, il va falloir aussi trouver un moyen de faire le trou, justement, pour envoyer la bombe psychique.
Eh bien, pour cela, vous dit Licarfai, on a la foreuse que nous avons récupérée justement du gouvernement chinois en échange de notre acceptation d'avoir des scientifiques chinois dans nos équipes. Rappelez-vous, il y a eu des négociations. Donc, vous disposez de la foreuse et d'ailleurs, elle est en train d'être rapatriée et d'être protégée. Donc, quelque part, vous avez tout, sauf la localisation exacte.
Si vous travaillez sur le Time Wave Zero.
Et pour cela, les supercalculateurs de la NSA sont en train de travailler dessus.
Bon, mais c'est une bonne chose.
Alors que la réunion se termine, cette réunion pour faire le point, tous les quatre, vous recevez une espèce de... comme si quelque chose effleurait votre esprit. Et vous ressentez en fait que c'est la bombe psychique justement qui essaye d'entrer en contact avec vous.
Ça c'est bizarre par exemple.
Elle vous a toujours parlé télépathiquement. Hein.
Ça a toujours été bizarre aussi.
Oui.
C'est clair.
Et de quelle façon on peut la rejoindre en fait? Non, lui. C'était bidirectionnel, dans le fond. On lui parle à des technopensées. Elle était capable de lire nos pensées.
Oui, enfin, vos pensées... rappelez-vous qu'elle avait fouillé dans vos souvenirs, ouais. Tout ça. Elle s'était rendue compte que vous étiez... que vous étiez déjà des personnes assez héroïques, assez courageuses. Et donc... Et donc voilà quoi.
Ouais. D'habitude, comment ça se passe? On lui répond à nous. On a juste besoin de. Dans ce cas-là, c'est parce qu'elle veut nous voir? Est-ce que.
Tout, Tout à fait, tout à fait. Ça semble être ça, effectivement. C'est un peu comme une espèce d'appel, une invitation à la rejoindre. Après tout, vous êtes les premiers membres de l'espèce humaine qu'elle a rencontrée.
C'est vrai.
Ouais, je réponds tout le temps à voix haute.
Donc, ouais, j'arrive. Comme si tu avais une oreillette, c'est ça?
Ouais, c'est
d'ailleurs,
ça.
D'ailleurs c'est pas mal de garder une oreillette pour faire croire que vous êtes en communication téléphonique et qu'on ne vous prenne pas pour des fous.
Et un petit doigt sur l'oreille, là, puis ah, oui, oui, ok, je t'entends, oui.
Ah, moi, je déteste ça. Moi, quand il y a ça qui se passe, on dirait que je fais semblant. J'ignore un peu et je me déplace pour aller la rencontrer la chose. La bombe psychique.
Alors, celle-ci a été installée dans une salle, des bureaux de la NSA. Elle est toujours dans sa cuve. En fait, on déplace toute la cuve. Manifestement, il faut qu'elle soit laissée dedans. Et donc, c'est une créature ressemblant à Feuille Rouge, mais qui a l'air beaucoup plus flétri, si je puis dire, et qui flotte dans sa cuve. Une cuve avec des tubes qui sont branchés à divers endroits de son corps et qui semblent à la fois de lui donner de l'énergie, peut-être de la nourrir, peut-être que le liquide dans la cuve est un liquide nutritif. Vous n'en savez pas plus. En tout cas... elle est là dans cette cuve qui a été installée, positionnée de manière verticale au sein d'une pièce nue, complètement vide. Ça donne une apparence un petit peu impressionnante, comme si vous étiez dans un film de science-fiction quelque part. On voyait ça que dans les films.
Ouais.
Ouais.
Et la bombe psychique... vous accueille par vous ressentez, en fait, elle vous transmet des émotions. Sa façon de parler avec vous n'est pas que télépathique avec des mots, mais aussi et beaucoup avec des émotions. Un peu et peut-être même vous l'a-t-elle expliqué, son espèce communiquait autant par le son que par l'odeur ou par des ondes ou par, enfin, tu voyais ce que je veux dire, avec d'autres moyens, et elle les retransmet comme ça. Et parmi les émotions, il y a une certaine émotion de contentement, de plaisir de vous voir arriver. Cela dit, vous ressentez aussi une petite émotion d'inquiétude.
Ah bon. Moi, je lui parle avec des mots. Vous nous avez appelés. Vous désiriez nous voir, je crois.
Oui. Je ressens que vous êtes en grande préparation pour votre opération contre le faucheur.
Tout à fait.
J'ai le sentiment que vous êtes juste dans les temps pour détruire votre démiurge avant qu'il ne se réveille. Je sens qu'il commence à s'agiter, il commence à sortir de son réveil. Peut-être que si vos instruments se... câblé sur certaines fréquences très basses d'impulsions magnétiques, vous pourriez peut-être plus vite le trouver. Cherchez des impulsions qui pourraient ressembler à ce que votre espèce qualifie comme un sommeil paradoxal.
Hey. Crash, tu peux peux t'occuper de ça, faire le lien avec les services technologiques pour qu'ils fassent cette recherche?
Oui, oui, je vais essayer de passer le message, là. Ça m'est paradoxal.
Merci.
Ouais, je vais aller faire ça, là.
Autre chose?
Je suis très curieux de savoir comment abordez-vous ce qui va se passer, le fait que vous allez affronter une sorte de dieu créateur. Après tout, c'est le faucheur qui vous a fait tel que vous êtes, qui a influé sur l'évolution de votre monde et qui, à l'approche de son réveil, a accéléré votre démographie, qui a accéléré vos progrès technologiques. Comment abordez-vous cette situation?
Oui, vas-y.
Dis-moi, c'est assez simple. Vous voyez le chargeur dans le fusil d'assaut. La clanche pèse dessus. Problème réglé. Si ça saigne, ça meurt.
Oui, mais ça ne saigne pas, je vous l'ai déjà dit.
Bon, ça finit toujours par saigner.
Nous avons une certaine... un certain déni, ou plutôt un certain... lâcher prise dans la situation qui nous amène à voir cette chose comme étant le début de notre phylogenèse, si je peux l'exprimer de cette façon-là. Maintenant, il s'agit uniquement d'un instinct de survie. Si cette créature n'est pas détruite, eh bien, c'est toute notre espèce qui périra. Donc, le questionnement ne se fait pas plus loin que ça, ni sur une note éthique, disons. Est-ce que ça répond à votre question?
D'une certaine manière, oui. Je pense que le moment venu, il sera nécessaire que vous vous accrochiez à ce que vous pensez, à ce que vous estimez être le plus important pour vous, pour affronter un tel danger, un être aussi puissant, un être qui quelque part a été votre Dieu sans que vous le sachiez. Et attendez-vous à ce que vous ayez à réaliser un combat qui va aller au-delà de ce à quoi vous avez été entraîné jusqu'à maintenant?
Ben, si je peux me permettre, nous avons, depuis un certain temps déjà, les épreuves dont nous faisons face sont grandement à l'extérieur de notre zone d'entraînement, si je peux m'exprimer de la sorte.
Je vous abonde dans la même sorte que vous, colonel.
Colonel, j'ai une question, si vous permettez.
Allez-y, nous sommes entre amis.
On n'était pas censé juste lâcher une bombe. Pas ça qui était convenu. Je pose la question comme ça, non? On parle de combat, mais c'est pas censé se finir avec une bombe. Ou j'ai mal compris?
Je vous invite à lui poser la question directement. Je crois que ça va lui... Il pourra mieux vous répondre que moi, certainement.
Bien sûr, colonel, je me retourne vers lui. C'est pas votre destin, votre travail, votre...
Certes, oui. Étant donné qu'il s'agit de votre démiurge, il ne peut pas nous affecter, nous, psychiquement. Par contre, Il est possible, au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de lui, au fur et à mesure que le moment viendra de décider de son destin, il est possible qu'il cherche à se défendre. C'est pour cela que je tenais à ce que vous soyez prévenus.
Donc, avec le moment de peser sur le bouton pour lâcher la bombe, ça se peut qu'on soit pas capable. Qui nous empêche psychiquement de mettre fin à ces jours.
Il se peut même que le doute vienne de vous. C'est pour cela que je voulais m'assurer que le moment venu, vous ayez tous les quatre, suffisamment de volonté pour aller au bout de votre décision.
Et en avez-vous l'assurance?
Jusqu'à maintenant, votre détermination ne m'a pas semblé faillir.
C'est une...
Une réponse.
C'est une très bonne nouvelle.
Sinon, on va porter du courage en bouteille.
Eh bien, si vous en avez, mon cher ami, emmenez-en pour toute l'équipée. Je crois que ça nous fera passer le temps durant le trajet.
Bien sûr, colonel, je vais aller chercher ça dans ma réserve.
Pendant ce temps, Crash, tu t'es rendu auprès des scientifiques qui travaillent sur le Time Wave Zero. Crash, es-tu là?
Ouais.
Super. Et tu as commencé à leur expliquer ce que... avec qu'est-ce que tu leur expliques, en fait?
Ouais, disons que je leur explique ce que j'ai... J'ai essayé de pas commencer avec sommeil paradoxal déjà là. Tu parlais quoi de basse fréquence, de quelque chose?
Oui, tout à fait.
Ouais. Là, j'essaie d'y aller avec les termes techniques que j'ai entendus là. De toute façon, faut qu'on trouve une certaine fréquence en particulier, right?
Disons que right? La bombe psychique t'a donné. Quelques indices et quelques pistes, de chercher les basses fréquences, de chercher des fréquences qui seraient proches de celles que l'on peut, dans leur forme, dans leurs ondulations, proches de celles que l'on enregistre lorsque l'on est en sommeil paradoxal.
Ah, ok, d'accord. Ok, bon, mais j'ai terminé en disant ça, là. Pas que Crash sait exactement c'est quoi, là. C'est pas une scientifique loin de là, là.
Ok.
Mais bon, elle espère que les scientifiques vont comprendre.
Ben effectivement, il y a un jeune scientifique, peut-être qu'il a un petit peu... qu'il a eu un petit crush.
Un crush sur Crash. Un crash.
Et donc il te mène jusqu'à une gigantesque console avec des écrans, des claviers partout, des boutons, des trucs comme ça, enfin la haute technologie, avec derrière toute une baie vitrée qui mène vers une gigantesque salle des serveurs, et au centre de la salle des serveurs une espèce de gros bloc noir. C'est leur super calculateur quantique de la mort qui tue. Déjà à l'époque, on commençait à mettre quantique partout pour que ça fasse très sérieux.
Oh, ça impressionne.
Et c'est un super calculateur de marque BlackBerry.
Oh, merde.
La honte.
Au début, il semble un petit peu dubitatif. Il te demande comment tu as eu ces informations-là?
Est-ce qu'il est dans le secret des dieux?
Pas sûr que ce genre d'information ait été. Quoique, t'es les.
Je peux dire le classique, c'est classifié. Non. Vous serez briefé plus tard si, si besoin était.
Bah, ils savent qu'il y a Feuille Rouge, ils savent que vous, vous avez aussi un autre alien avec vous. Donc, tu peux arriver à donner des informations.
Ah, ok, mais je peux lui dire que c'est un de nos alliés extraterrestres qui nous a dirigés en ce direction-là, right?
Oui, tu peux tout à fait. Et donc, tout excité, le jeune scientifique s'installe devant un écran. Il commence à pianoter, c'est digne des films de hackers, tac 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 tac, où il pianote dans tous les sens et parfois même de manière totalement incohérente, mais ils arrivent à avoir un résultat. Et effectivement, au bout de un quart d'heure, 20 minutes de traitement, il semble y avoir quelque chose qui se dessine. Il est tout excité, il tourne son écran vers toi, il te montre, il te dit vos indices sont portés. Regardez, il semblerait que le signal semble provenir. Et au fur et à mesure qu'il parle, il n'arrive pas à trouver ses mots tellement il est excité. Sur l'écran, tu as une espèce de zoom qui se fait petit à petit. Au début, c'est l'Amérique du Sud complète qui est couverte par l'écran. Et puis, clac, ça zoom. Et au fur et à mesure que ça approche, l'écran s'arrête, enfin en tout cas le zoom s'arrête sur une localisation en Amérique latine. C'est le Guatemala. Et plus précisément, la localisation, c'est la cité royale maya de Tikal.
Oh.
Ta-ta-ta.
Ah ben, regardons ça, toi.
Sans fort.
Et là, le scientifique dit... c'est là que ça vient, sous la croûte terrestre, précisément à cet endroit-là. C'est fou ça. C'est comme si quelque part les Mayas avaient pu. Oh, c'est totalement fou ça. Que fais-tu de cette information, ma chère Crash?
Je pense que justement, on est en 2012, hein, puis il y avait cette notion 2012, hein. De 2012, fin du monde.
Mais c'est le calendrier maya.
Oui, ouais, c'est ça, le calendrier maya. Je pense que je roule des yeux, comme... J'essaie d'être discrète, là, mais je suis comme... ouais. Bon travail, mon jeune. Continue à observer la place. Je vais aller indiquer... je vais aller apporter ton information aux têtes dirigeantes. Et je m'en vais vous rejoindre.
Ah ben je
suppose... Où est-ce que vous êtes? Oui?
Je suppose que cette... Tu vas juste voir tes collègues ou tu en parles au général?
Ben, je veux dire, oui, ben c'est sûr que je... Ouais, je vais aller au supérieur quand même avant, quand même. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, hein? C'est ça, dans les hiérarchies, là, c'est ça, hein? Faut en parler au supérieur.
Ah, il vaut mieux.
Ouais, d'accord. Je vais probablement que j'ai fait un croche pour aller vers mes collègues, mais après ça, j'ai comme... Ah, ok, d'accord. Je pense que ça vaut la peine que j'aille en parler au supérieur avant. Là.
Et donc, les autres, vous étiez en train de vaquer à vos occupations. D'ailleurs, une occupation super intéressante parce que on vous a demandé, l'Icarfai vous avez demandé de l'assister pour venir récupérer, de prendre livraison d'un colis qui devrait vous intéresser fortement. Et vous êtes dans une espèce d'atelier d'ingénierie dans le bunker sous le bâtiment de la NSA. Et là, il vous amène dans une salle où on vous montre une seconde armure adaptée des aliens. Je vous la remontre. D'ailleurs, se pose la question,
je pense qu'ils ont,
qui la mettra? Striker, il en a déjà une, entre guillemets.
J'en ai déjà
une. Dans ce cas-là, c'est Block.
C'est une deuxième, là.
Block, je crois qu'ils ont pris tes mensurations. Allez, en selle, cowboy. Essaye ton nouveau joujou.
D'accord, colonel. Toujours rêvé de piloter un mecha.
Alors, tu t'installes dans l'armure. Tu la vois qui se referme autour de toi. Tu es un petit peu à la Iron Man. Tu te retrouves dans cette espèce d'exosquelette qui bouge en même temps. Au début, il y a un petit temps d'adaptation pour arriver à reprendre ton équilibre. Mais très vite, ça devient presque une seconde peau. Et tu disposes justement de... On t'amène dans une autre salle où tu as des cibles à distance. On te demande de tester l'armure justement. Voir comment tu arrives à travailler avec elle. Alors pour rappel, elle utilise une lame que tu utilises avec arme blanche. Qui fait 3d6 de dégâts, une lame rétractable, elle a une protection de 8, et elle peut lancer des dards, dégâts 2d6, cibles multiples, avec arme à feu, mais tu peux aussi utiliser n'importe quelle arme humaine avec les doigts.
D'accord.
Parfait. Et alors que tu es en train de te dévêtir, tout content de ton expérience, vous recevez tous une communication de Collins pour une réunion d'urgence.
Ouais, cool. Moi, je m'y rue. Alors, allons-y.
Parfait. Vous traversez les couloirs, vous montez les ascenseurs, vous montez les escaliers, vous passez des checks divers et variés et vous vous retrouvez bientôt en salle de briefing. Là, Liane, le général Collins, Feuille Rouge, le lieutenant-colonel Licarfai, le major Raphaël Santos, votre compagnon extraterrestre, l'éclaireur, et d'autres huiles de l'armée américaine sont présents, ainsi que Crash. Et alors que tout le monde est installé autour de cette table avec un écran sur lequel est projeté pour l'instant une image de la planète, Liam Collins commence à faire une introduction. Il dit que les services d'Icarus, aidés par la NSA, a enfin trouvé la menace, le faucheur. Et là, Colin se tourne vers Crash et il dit « Je vous en prie, Crash. »
C'est le fun que je pose la question parce que j'ai totalement oublié le nom de la ville maya.
Alors, c'est au Guatemala et ça s'appelle Tikal.
Et Tikal. Ah, ok, d'accord. C'est bon. Bon, ben, c'est beau. C'est une crash pas super habituée d'être le centre d'attention qui pointe la carte et qui dit ah ben, c'est là qu'on a trouvé la source du signal. Juste en dessous d'une cité maya qui s'appelle le Tikal, au Guatemala. Et... Ah, ça arrête là.
Là, les certains huiles de l'armée, quelque part, se tournent vers vous. C'est vrai que depuis votre réunion à l'ONU, où vous avez aidé à mettre en place le plan de défense, et aussi suite au prestige que vous avez gagné en réussissant de nombreuses missions pour donner un avantage à l'humanité dans cette guerre, les généraux vous font beaucoup plus confiance. Et ainsi, ils se tournent là dans votre direction, vous quatre, en direction de Collins, dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite?
Général, si vous permettez.
Je vous en prie, colonel.
Nous avons un dispositif qui va être en mesure de neutraliser la menace, une fois pour toutes, et du même coup, empêcher l'invasion extraterrestre que nous subissons à l'instant. Un peu à l'instar comme si on leur fauchait l'herbe sur le pied, n'ont plus vraiment de raison d'être ici. Donc, nous allons forer jusqu'à l'endroit où la menace doit insérer la bombe qui fera le travail, en fait, qui éliminera cette menace. Et suite à ça, ben, nous avons bon espoir que la situation serait réglée. Voilà.
Colin se confirme tes dires. Et s'ensuit justement une réunion d'organisation sur comment est-ce qu'on va faire tout ça. Une fois celle-ci terminée, vous connaissez le plan d'opération. On va vous envoyer en Amérique latine, Guatemala, sur le site, avec deux équipes de 5 soldats, avec la foreuse avec la bombe psychique. Il va y avoir le lieutenant-colonel Licarfai et le major Rafael Santos, ainsi que Feuille Rouge et l'éclaireur qui vont vous accompagner. L'objectif étant d'être suffisamment discret. Dans le même temps, il y a des opérations leurres qui vont être organisées en se coordonnant avec les autres forces des autres pays pour attirer l'attention des envahisseurs et vous permettre d'agir en toute discrétion. Une fois sur place, vous percerez avec la foreuse la croûte terrestre et vous enverrez la bombe. Votre mission sera de vous assurer que cette opération soit couronnée de succès.
Eh bien, nous sommes prêts.
Nous allons faire ce qu'on peut, colonel, général.
Le départ est prévu pour le lendemain. Vous avez donc permission pour la soirée et la nuit. Et là, je vous pose la question, à quoi allez-vous consacrer ce temps, justement?
Moi, dans un premier temps, je vais demander une audience avec le général.
D'accord. On va faire ça rapidement alors. Mm-hmm. Sans problème, il te reçoit. Tu veux être tout seul?
Ouais.
Donc il te reçoit dans un bureau qui lui a été affecté. Oui, colonel. Je trouve que ces dernières nouvelles sont exaltantes. Enfin, nous voyons le bout du tunnel. Enfin, nous avons l'opportunité de nous sortir de cette situation inextricable. Et tout ça, c'est grâce à votre équipe. C'est grâce à vous tous. Vous avez été vraiment exceptionnels. Félicitations. Mais... il ne faut pas baisser la garde. Peut-être que le plus dur nous attend maintenant.
Vous avez absolument raison, mon général. Je suis heureux de vous entendre le mentionner que effectivement, tous ces avancées sont le fruit, pas exclusivement, mais sont le fruit d'efforts d'hommes et de femmes qui se sont dévoués pour cette tout au long de cette mission. Le point que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui est un point plus peut-être qui est rarement discuté avant ce genre de mission, mais j'aimerais vous soumettre un point qui me tracasse, mon général. J'ai vécu à certaines reprises des missions où est-ce que le nom des héros était tu pour la sécurité nationale et où les gens n'avaient pas la reconnaissance dont ils méritaient pour leurs efforts. Ce que cette aventure nous ne survivions pas et j'inclus dans le lot nos compatriotes déjà décédés, j'aimerais qu'il y ait une... J'aimerais que leurs efforts soient reconnus. J'aimerais que leur famille soit à l'abri du besoin et que par ce geste posthume, bien, on soit capable d'honorer leur mémoire et leur sacrifice. Mon général, est-ce que j'ai votre garantie que ces hommes et ces femmes qui se sont dévoués pour et potentiellement, et certains d'entre eux ont fait le sacrifice ultime, seront reconnus à leur juste valeur et que leur famille sera à l'abri du besoin après ces événements?
Vous avez ma parole que personne ne sera oublié.
Je suis très conscient que ce n'est pas de votre ressort, mais plusieurs d'entre eux, plusieurs de d'Icarus sont issus de corps d'armée ou d'organisations dans lesquelles ils ont été désavoués. Pour ma part, je n'ai aucune envie de retourner dans l'armée américaine, mais j'aimerais toutefois qu'on me redonne mes honneurs à la suite de tous ces événements. Est-ce que c'est une demande que je peux vous adresser?
Bien entendu. Et je mettrai tout mon poids pour que vous ayez que vous retrouviez ces honneurs perdus. Même si je pense que les honneurs que vous êtes faits au sein d'Icarus sont bien plus grands que ce que vous cherchez à rattraper.
Mon général, merci. Et pour ma part, je poursuis les préparations.
Merci à vous, colonel.
Et je m'éclipse.
Et donc, j'en reviens à ma question. À quoi consacrez-vous votre temps, votre soirée, votre nuit, avant le départ pour Tikal?
Striker, il va astiquer ses armes, s'assurer que l'armure est prête, fonctionnelle, que tout est en état. Ça va être ça. Ça va être ce qu'il va faire avant le départ.
Ok, bloc.
Si encore un bar qui tient debout proche. Moi, j'allais m'amuser, tu me vider la tête, passer un bon moment, puis après ça, revenir me coucher pour être prêt le lendemain matin.
Excellent. Crash?
J'hésite beaucoup. Est-ce qu'elle doit être sage ou elle va aller faire quelque chose? OK, je vais y aller totalement contre le personnage. Elle va aller ramasser le petit scientifique là, qui a fait les recherches, puis elle va l'amener au bar.
Ouh!
Soyons fous! Le monde finira peut-être demain.
Mm-hmm. Eh oui. Mm-hmm. Carpe diem.
Et voilà.
Et enfin, colonel.
Moi, je vais prendre ça relax. Je vais me faire livrer une pizza. Et je vais écouter un de mes films préférés. Et dans une espèce d'excès de nostalgie, je vais appeler mon père.
Et comment se passe justement cet échange avec ton père?
Est-ce qu'on m'entend? Oui.
Oui.
Ah, OK, excellent. Ça fait déjà un bout de temps qu'on s'est pas parlé depuis les événements, depuis ma sortie de l'armée, depuis ma décharge non honorable de l'armée, ça a été un point de friction. Et on s'est parlé, mais ça a toujours été des conversations très, très non satisfaisantes et souvent coupées par un amertume ou des frustrations qui finissaient par sortir tôt ou tard. Donc cette fois-là, j'ai un espoir de pas tomber dans ces vieux mécanismes-là et de... Voilà, c'est un peu ce que j'ai en tête.
Ouais. Et qu'est-ce qui se passe alors? Vas-y, décris-nous tout ça. Fais-toi plaisir.
Question comme ça avant, est-ce que le public en général, ils savent des choses, mais est-ce qu'ils ont une idée de la teneur de la situation et tout ça, ou sont complètement dans le flou, puis ils voient juste des tempêtes et tout ça?
Ah non, l'invasion alien est une réalité pour tout le monde, vu que plusieurs grandes villes ont été attaquées, voilà, c'est une guerre mondiale qu'il y a là.
OK. Donc les gens sont très au courant de ce qui se passe.
Les gens sont au courant. Il y a des colonnes de réfugiés pour aller dans la campagne et éviter les grands centres urbains. Il y a de partout des services qui sont surpeuplés. C'est le chaos. Il y a eu des émeutes aussi. Il y a eu des. C'est le chaos. Vous êtes un petit peu épargné, justement. Mais régulièrement à la télévision. Télévision qui a priori, il y a pas mal de satellites qui ont été détruits par les envahisseurs. Donc, télévision qui émet un petit peu comme dans les années 80, tu vois. Et donc, avec une image pas forcément très, très, très belle, tu vois, un peu, parfois un petit peu brouillée. Il y a des reportages de guerre, il y a vraiment, je te dis, c'est un conflit mondial.
Parfait. Moi, on voit, je pense qu'on voit le colonel décrocher le téléphone. Il commence, il dit, monsieur, général, papa, et là, il y a comme un moment qui se passe. À un moment donné, on voit, je pense, dans son visage, son visage semble se crisper. Mais ses épaules, à un moment donné, font juste se le relâcher. Il respire. prend son temps. Et là, ça semble beaucoup plus distendu. Et ça, ça se termine par... J'espère que nos désaccords passés vont tout de même... J'espère que nos désaccords passés vont être mis de côté. Nous apprêtons à mener une opération qui pourrait changer la face de l'histoire et si j'ai la force et le caractère pour mener à bien cette mission, je vous le dois. J'espère que vous serez fiers de moi. Et il raccroche. Respire par le nez. Sachant pas trop ce qui va découler de tout ça. Il se dit qu'après tout ça, il y aura le temps de peut-être régler la situation. Et s'il s'en sort pas, ben son père comprendra le message. Voilà.
Parfait. Je pense que nous allons donc faire une petite ellipse et nous rendre à Tikal. Qu'en pensez-vous?
Mm-hmm. Ouais.
Allons-y.
Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme musique?
Oui, Despacito.
Ah là là. Oh là 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 là.
Est-ce que vous voyez la carte?
Là oui.
Yes.
Ouais.
C'est beau.
C'est normal qu'il mouille?
Ouais.
Ah.
Bien. Collins a fait le point avec toutes les forces militaires présentes en Amérique latine. Il a préparé pour elles des plans d'urgence afin d'assurer la protection du site si les envahisseurs venaient à le localiser et à l'attaquer. Votre escorte est volontairement limitée à 10 soldats pour des raisons de discrétion.
Ah, c'est l'escorte, ça. Ouf, je sais pas.
Les personnels sont répartis dans deux camions et la foreuse est installée dans un autre appareil. Un autre véhicule. Le voyage se déroule sans encombre. Vous pénétrez dans le parc national de Tikal, au cœur de la jungle, pour finalement arriver dans la cité, puis dans son cœur de 16 km² de superficie. Les très nombreux bâtiments, acropoles et temples sont entourés par une végétation très dense et reliés par des allées dégagées. Le sommet des pyramides. Pardon. Le sommet des pyramides flotte au-dessus du faîte des arbres. À votre arrivée, il y a une vingtaine de personnes qui sont installées sur la grande place. Donc la grande place, c'est ici. Enfin, vous voyez la grande place là, quoi. C'est marqué la grande place.
Mm-hmm.
Bien. Pour assister à la fin du monde telle que prédite par les Mayas. De ce que vous voyez, ce sont des gens dépassés par les événements qui ont perdu tous leurs repères et qui sont là complètement perdus à prier en attendant la fin. Vous savez que pour des raisons de sécurité, il va falloir faire évacuer les lieux. Donc maintenant, hop, vous êtes tous là. Comment organisez-vous tout ça? C'est à vous de me dire où est-ce que vous placez les. Où est-ce que vous placez les.
Les hommes.
La foreuse, elle. Elle est censée être positionnée au niveau de la grande place. Elle va être actionnée par l'éclaireur ainsi que Santos et les Carfai. Et vous autres, où est-ce que vous vous positionnez? Voilà, j'ai besoin de savoir.
Le point le plus haut, ça se trouve être quoi? C'est l'acropole? L'acropole nord? Le temple? Peut-être? L'acropole centrale? Hein?
Alors, l'acropole centrale, effectivement, est assez haute. L'acropole nord semble être plus haute, effectivement. On va dire qu'on compte ça au nombre de restants, enfin, au nombre d'étages là, de chaque. Ça sera le plus simple.
Ok. Moi, je vais me positionner. Moi, je vais me positionner à l'acropole nord en tant qu'observateur. Pour les autres, ben, je vais vous laisser. Pour nos 10 amis, je pense que les mettre les disperser, peut-être en groupe de deux, pour bien voir tout le secteur, ça serait une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mm-hmm. Ouais, comme en mettre deux ici, après ça deux ici, deux là.
Christophe?
Oui?
Tu disais qu'il y avait des gens qui étaient... des gens random qui étaient là pour prier, genre?
Exactement.
Là
où j'ai positionné la foreuse, c'est là où il se trouve.
Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pas une bonne idée qu'il soit là. Fait que je vais probablement piquer un porte-voix puis essayer de dire aux gens en espagnol qu'il serait mieux d'aller voir leurs parents et leur famille avant qu'on fasse autre chose.
C'est vrai que tu parles espagnol. Tu vas me faire un test d'autorité, s'il te plaît. Difficulté 12. Ah, n'oubliez pas que vous avez récupéré tous vos points d'héroïsme. Hein?
Oui, justement, et c'est la raison pour laquelle que je vais te dire tout de suite que je vais prendre un point d'héroïsme.
Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont encore... à qui il manque des points de vie?
Ah, c'est une bonne question.
Pas moi.
Sûrement à moi.
Moi, je suis beau. Je suis belle.
Ah non, c'est bon, j'ai tous mes points de vie.
On est en armure, moi puis Striker.
Oui, tout à fait.
Ok.
Donc, tu disais, comment il fallait que j'aille?
12.
Ah, c'est pas tant que ça. Anyway, et voilà, c'est fait. Je vais être sûr, ne pas le rater.
Ouh, 22, excellent. Donc, tu arrives à trouver le ton pour les canaliser et ceux-ci repartent en direction de comment ça s'appelle, des autres temples en fait. Il y en a qui vont vers le temple numéro 3, il y en a qui vont par là.
Tant qu'ils sont pas là, je suis correct. Tant qu'ils sont le plus loin possible.
Eux, ils veulent prier. Donc voilà. Et ça, c'est fait. Ensuite, où est-ce que vous positionnez vos gars, alors? Et les véhicules? En sachant qu'il y a un véhicule qui est obligé d'être positionné sur la grande place, c'est la foreuse.
Moi, j'ai... Je me pose la question, est-ce qu'avec un test, peut-être, de... je sais pas moi, de tactique ou quelque chose comme ça, je pourrais avoir peut-être un indice sur la zone ou la façon, parce que les points importants à couvrir et tout ça. Intellect, je sais pas.
Effectivement, avoir une... Alors, L'avantage et l'inconvénient de monter sur les structures, c'est que ça te permet de voir venir de loin. Mais le problème, c'est que la jungle est très dense. Donc tu verrais venir de loin les éventuels dangers qui passeraient par les allées, qui elles sont dégagées, tu vois. Mais ce qui viendrait de la forêt, par contre, non.
Ok. Ben écoute, moi, pour ma part, moi, je vais prendre le risque. Je vais prendre quand même le risque, je vais aller en hauteur avec peut-être. Je présume qu'on doit avoir une paire de jumelles et tout ça. Là. Je vais.
Oui, tout à fait.
Je vais prendre ça. Question d'être capable de voir les choses venir et peut-être utiliser ma capacité de tacticien. Maintenant, pour les autres hommes. Je pense que, c'est, comme on disait, t'sais, des groupes de deux un peu éparpillés pour quadriller la zone, ça serait bien. Les véhicules, moi, je les mettrais dans des aires où est-ce qu'ils sont... Ou si on a évacué rapidement, ou si on doit les utiliser, ça serait le best. Donc, je le mettrais, moi, dans l'allée Tozer, là, pas loin de... disons, entre le A et le Temple 4, le premier véhicule. Deuxième véhicule, j'irais peut-être le positionner...
Le deuxième, je le laisserai au pied.
Ouais, c'est une bonne idée.
Après, ça s'enfuit.
Ok, alors si je comprends bien, il y a un véhicule que vous positionnez grosso modo ici, là. Et un autre véhicule que vous laissez ici.
Ouais.
Ok. Ensuite, les gars, vous les positionnez où?
Je dirais, on en met au moins deux ici. Après ça, on va en mettre là, ici.
Alors attends, j'ai pas très bien vu où tu me disais les ici.
En haut du M de Temple 2.
Ok. Donc, deux gars ici.
Ouais. Après ça... Okay. Après le Acropole central là, dans l'allée qu'on voit à côté de central, là, ouais.
Ok. Ici.
Je dirais ici, je ne fais une marque là, en arrière de moi, par contre. En dessous, là, de Acropole Nord. Et les deux autres en face du véhicule. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, là?
Ouais, ça me convient.
Ok, ouais. Super. Ensuite, vous vous positionnez où, vous, de manière générale?
Ben moi, je suis l'Acropole Nord. Je pense que je l'avais déjà mentionné. Tu sais, ça va être mon spot, là.
Je pensais qu'on allait dans la foreuse aussi.
Moi, je vais justement surveiller la foreuse, parce que s'il n'y a pas de foreuse, ben... c'en est terminé, hein.
Ben, on va pas aller avec la foreuse, nous autres, c'est ça? On reste ici, c'est ça le plan?
Mais le plan, je pense, c'est parer jusqu'à la bonne profondeur, puis après ça, dropper la bombe.
Ouais, mais moi, je vais rester proche.
Oh, oui, mais c'est pour ça que je suis proche aussi.
S'il y a une attaque...
Exact.
Protéger ouais. La foreuse.
Est-ce que la foreuse, on va la sauver après? Est-ce que... C'est pas dans les plans, dans le fond. On l'abandonne. Un coup qu'elle a foré jusqu'à sa distance, on l'abandonne, ça se termine.
Oui, oui. Bon, en tout cas, je pense que oui.
Ben, dans le pire des cas, si on réussit puis qu'on est en bonne grâce avec les aliens, il n'y a rien qui nous dise qu'ils vont pas nous en donner une. Hein? Pourquoi la sauver?
Alors, rappelez-vous, quand vous étiez allé en Chine, la foreuse était sortie toute seule.
Elle est programmée, là.
Vous aviez, okay. Elle avait détecté votre présence. Et elle était sortie, elle était repartie. Et là, comme elle a été reprogrammée, il est possible qu'une fois qu'elle sera à la bonne profondeur, elle ressorte et qu'elle se mettre quelque part.
Ah, ok.
La bombe psychique, elle est dans un des trucks ou...
Oui, oui, tout à fait. On va dire qu'elle est dans le véhicule qui est à côté de la grande place.
Okay. Ouais, ben je vais rester à côté.
Ouais, c'était une bonne idée.
Ouais. Très important aussi, la bombe psychique.
Oui. Pour réussir, il nous faut les deux éléments. Juste un, ce n'est pas assez.
Yes.
Elle est dans le camion, là, ici, là.
Ouais.
Ouais.
D'ailleurs, il y a juste deux personnes devant, puis moi, puis toi, je pense. Hein?
Je vais me positionner comme entre les deux, si jamais.
Ok. On sifflera si on voit du trouble. D'ailleurs, parlant de siffler, tu sais, il y a un bâtiment à côté de moi, là, genre là, là, ou.
Oh, c'est des, hein? c'est des ruines, hein? Ouais.
Ouais. Bon, mais va grimper dessus, comme ça, au moins, j'aurai peut-être quelques pieds de plus, là.
Tu te trouves trop petite, c'est ça?
Yeah. On va dire.
Parfait. Alors que vous êtes en train de d'œuvrer sur le site, commencer à travailler tout ça, vous commencez à ressentir une espèce de pression au niveau du crâne. C'est assez désagréable. C'est comme une espèce de migraine assez forte qui commence à s'intensifier. Je vais demander à tous de me faire un test de volonté. La difficulté est de 12.